Le commentaire de
Mathieu Boccoté, dépensé pas comme les autres.
Alors Mathieu, hier tu nous parlais d'un texte qui était publié dans le Huffington Post, écrit par une Québécoise d'origine chinoise. J'avais dit que ce texte-là était d'une stupidité cosmique. Eh bien là, nous repoussons les frontières. Là, on est vraiment Star Trek, on est patrouille du cosmos. Là, on va vraiment, on repousse les frontières de la niaiserie avec Anastasia Marcellin.
Alors, Mme Marcellin s'était fait connaître il y a quelques mois déjà dans une vidéo sur Facebook où elle disait notamment, je la cite pour ne pas être inexact. On sait, on est arrivé au Québec à 14 ans, elle est d'origine haïtienne, c'est très bien, même si c'était accueillante, mais elle nous dit donc, à propos des Québécois, la plupart d'entre vous sont des hosties paresseux qui foutent rien que rester sur le bien-être social. Texto, ça a été une citation. Elle expliquait par là que les Québécois étaient laissés eux-mêmes peuple un peu, pas de grande envergure, et qu'on avait été heureusement civilisés et éduqués par les intellectuels haïtiens en exil arrivés ici sous les Duvaliers. Donc, elle nous avait expliqué ça, puis elle complétait en disant que la plupart d'entre vous sont des hosties paresseux qui foutent rien que rester sur le bien-être social. Elle s'était fait connaître un peu pour ça. Et là, elle décide de parler des événements autour de George Floyd, elle en a rajouté, en expliquant que notre histoire, c'était les Blancs et les Noirs, donc elle semblait vouloir nous expliquer notre histoire en nous expliquant que c'était comme l'histoire américaine, donc francophone et anglophone, ça disparaissait, il y avait Blancs et Noirs. Et là, elle en a dit un peu plus hier sur sa page Facebook, Madame Marcellin, elle est présidente, je crois, de la Ligue des Noirs Nouvelle Génération. Donc, c'est pas n'importe qui, elle représente un organisme de militantisme actif. Et elle nous dit hier, c'est assez intéressant sur Facebook, pourquoi dois-je me sentir obligé de parler français? Pourquoi dois-je parler une langue qui me rappelle la douleur des miens? Pourquoi eux, ces blancs, je laisse de côté les fautes, mais bon, on me dira ce détail, qui veulent que je parle leur langue afin qu'ils puissent me comprendre, mais n'ont pas ma langue comme première langue? Alors là, c'est intéressant parce que ça en dit beaucoup d'une certaine manière sur cette espèce de psychologie qui est présente aujourd'hui dans les mouvements qui se réclament de l'antiracisme, mais qui sont tout à fait racistes bien souvent. Bon, premièrement, encore une fois, ça réduit tout à la couleur de la peau, ça me faut la peine de le dire, mais surtout, c'est intéressant. Donc, madame arrive ici à 14 ans, puis se demande pourquoi le français serait la langue commune. Pourquoi est obligée d'apprendre la langue de la société où elle s'est installée, où sa famille s'est installée? Pourquoi c'est pas la société d'accueil qui apprendrait sa langue au nom de la douleur historique qui est celle de sa société d'origine? Pourquoi c'est la société d'accueil qui décide d'imposer ses codes culturels, je devine que cette vidéo doit être vue comme un geste colonial et abject, oui, à ceux qui les rejoignent, alors que cette société d'accueil pourrait, elle, plutôt apprendre la langue de ceux qui arrivent chez elle, de ceux qui s'y installent, parce qu'ils leur font la grâce de s'y installer. Elle nous l'avait dit, les professeurs haïtiens ont civilisé les Québécois, les intellectuels haïtiens nous ont tirés de notre propre merde, parce que par nous-mêmes, on est des paresseux qui foutent rien que rester sur le bien-être social. Ce soit là, donc, déjà, le premier moment de civilisation a eu lieu à ce moment-là où on nous tire de notre merde. Et bien là, maintenant, on explique qu'on doit apprendre le créole, non pas parce que c'est une langue honorable, très bien, c'est une langue de culture, très bien, on peut vouloir faire ça, mais tout simplement parce qu'il n'y aurait pas de primat légitime du français au Québec et que la société d'accueil devrait apprendre la langue des nouveaux arrivants par principe. C'est intéressant quand même comme point de vue, puis je reviens sur la question de la mémoire. Pourquoi dois-je parler une langue qui me rappelle la douleur des miens? C'est intéressant comme point de vue. Ben, on pourrait répondre qu'elle doit l'apprendre, mais je sais pas, parce qu'elle a rejoint la société québécoise. On pourrait lui dire que, au Québec, elle n'est pas ici héritière de l'esclavage. C'est pas une descendante de l'esclavage. Ici, c'est une descendante de réfugiés ou d'immigrés. Je connais pas son parcours personnel, mais on peut supposer que sa famille s'est installée ici pour avoir une vie meilleure. On pourrait croire, mais ça, c'est un peu vieux jeu, qu'il y aurait une forme de gratitude élémentaire, peut-être. Ou à tout le moins, d'acceptation pénible et paisible tout à la fois de sa société d'accueil. Mais non, Mme Marcellin a un sens aigu de la justice et elle se demande au nom d'un égalitarisme magnifié pourquoi c'est pas les Québécois qui apprennent le créole et pourquoi on le suit, mais pas une langue qui rappelle la douleur de ses ancêtres. C'est vraiment, c'est une pensée intéressante, il n'y a pas de doute là-dessus, qui mérite qu'on s'y penche, mais je dirais surtout qu'il est révélatrice d'un état d'esprit, parce que ce discours-là, on le voit ces jours-ci, on le voit de plus en plus. Là, il s'exprime peut-être de manière quelque peu tonitruante chez Mme Marcellin, qui, euh, qui a quand même une certaine combativité dans son désir de dire que le français c'est trop et que les Québécois c'est des BS et des pas propres. D'accord, c'est son point de vue, elle le dit avec son vocabulaire. Mais il n'en demeure pas moins que c'est un point de vue qui est plus répandu qu'on ne le croit. Il peut s'exprimer avec la douceur de Mme Lee hier, qui nous expliquait justement que ce qui l'embêtait à Montréal, c'est franchement, c'est qu'il y a trop de Québécois francophones dans Villeray. S'il y en avait moins, ce serait mieux, non? Ce serait plus ouvert, ce serait plus ouvert. Mais elle préfère quand même retourner en Asie parce qu'elle va être avec des gens qui lui ressemblent et elle goûte les plaisirs de l'homogénéité ethnique et raciale. C'est son point de vue. Aujourd'hui, on nous explique qu'on devrait apprendre le créole pour être véritablement égalitaire et pourquoi elle apprendrait le français parce que c'est la langue qui suscite la douleur chez elle. Tout cela est très intéressant parce que ça nous en dit finalement beaucoup sur les effets ravageurs du multiculturalisme, du racialisme, de l'américanisation des esprits sur des gens qui manifestement ne se voient pas au Québec comme des gens qui font leur vie ici, mais qui veulent déloger le bois mort que sont les Québécois francophones qui devraient se tasser pour que naisse une société nouvelle.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Il fut un temps où les ignorants avaient honte de leur ignorance et étaient plutôt discrets dans les discussions publiques parce qu'ils savaient que, bon, ils avaient beaucoup de trous dans leur culture et donc ils prenaient leurs trous. Aujourd'hui, les gens ignorants sont fiers de leur ignorance, la brandissent, ont des micros, son texte est bourré de fautes et en plus, elle associe la langue française aux blancs. Et là, ça nous ramène à cette obsession qu'ils ont, les antiracistes, de tout ramener à la race. Et je te jure, là, on pourrait avoir une discussion sur les ongles incarnés et elle ramènerait ça à la race.
Ben, en fait, ce qui est, je le documente pour un bouquin sur lequel je travaille ce temps-ci, c'est cette espèce d'obsession racialiste. Et là, on apprend, par exemple, que le racisme s'est glissé jusque dans les mathématiques. Ah, ça, c'est... Je cherche comment 2 plus 2 égale 4, peut-être, d'une manière ou de l'autre, une manifestation de racisme. On nous dit toutefois, dans les milieux de l'antiracisme racialiste, que ça, c'est pas moi qui le dis, parce que je trouve que c'est délirant de dire ça. On nous dit que, par exemple, la famille nucléaire, la rationalité et la quête scientifique seraient propres à la culture blanche. L'universalité, d'ailleurs, aussi. Là, moi, je tombe par terre. Parce que moi, qui étant un universaliste véritable, j'aurais jamais l'idée sotte et aberrante de dire que l'objectivité, la raison, la science, c'est blanc. Bien sûr que non. C'est qu'on manque fou de dire ça. C'est insensé. Mais ça, l'antiracisme racialiste trouve le moyen de faire, finalement, de marqueurs universels, des marqueurs propres au racisme occidental. On nous dit aussi que la physique est raciste, ça faut pas l'oublier. Et la musique classique. La musique classique est raciste. On peut faire une longue liste de choses. Oui. En gros, nous sommes ontologiquement coupables de par la couleur de notre peau.
Exactement. Et écoute, elle parle du français et elle dit, on sait qu'elle est haïtienne, elle parle créole, elle parle du français, elle dit, cette langue n'est pas et ne sera jamais la mienne. La langue française ne sera jamais ma langue. Je veux rappeler à Mme Marcellin que Danny Laferrière est haïtien, qui parlait créole et qui est à l'Académie française, maudite niaiseuse.
Alors, c'est particulier parce que Mme Marcellin, là-dessus, en plus, donc, elle décide de... C'est très bizarre de racialiser les langues, mais doit-elle, peut-être ne le sait-elle pas, parce qu'on ne peut pas tout savoir, que quand même une partie de la francophonie joue son avenir en Afrique aujourd'hui, soit dit en passant. Que le français est aussi langue d'émancipation, et à moins de considérer, ce serait triste, que finalement, il n'y a de langue que par la couleur de la peau, il n'y a de peau liée à la langue, et ainsi de suite, puis on est condamné à une forme d'étanchéité culturelle définitive, eh bien, peut-être pourrait-elle se dire que c'est justement dans le français, par le français, pas seulement par le français, qu'il y a eu une relation particulière qui s'est créée entre Haïti et le Québec. Que les Québécois étaient jusqu'à tout récemment, puis le sont encore, j'en suis convaincu, assez fiers de leur relation avec Haïti. Mais c'est difficile, quelquefois, pour la qualité d'une relation, quand des gens nous expliquent qu'ils se prennent pour des leaders dans leur communauté. Que finalement, nous sommes de trop ici, qui nous expliquent que nous sommes des racistes, parce qu'on est toujours des racistes, et qui considèrent, et ça je pense que c'est important de le dire, qui considèrent que toute critique de leur discours, c'est du racisme. On voit ça, c'est assez particulier, donc Mme Marcellin, quand on la critique, elle dit que c'est du racisme, parce qu'on critique, ou c'est même du sexisme, qu'on critique une femme noire, donc c'est du racisme et du sexisme. Dois-je comprendre que la critique doit être réservée à certaines catégories de la population, et d'autres peuvent s'en exempter? identité par leur couleur de la peau ou leur sexe. C'est assez intéressant comme point de vue. Autrement dit, on peut dire ce qu'on veut, n'importe quoi, n'importe comment. Insulter les Québécois francophones, vomir sur notre histoire. On peut faire tout ça et quand on critique la personne, on est victime de racisme. Mais ça, c'est génial quand même. Ça, c'est pile, je gagne, face.
Ben oui, exactement. Elle dit, je veux pas me soumettre aux Blancs. Donc, lorsqu'on veut que des immigrants parlent notre langue, on est finalement oncle Tom et on veut imposer, on est des suprémacistes blancs parce qu'on veut qu'ils parlent français. Oui. Mais c'est tellement niaiseux.
Oui, oui, mais alors si c'était que niaiseux, on lui accorderait pas autant de temps aujourd'hui. Si on en parle, c'est parce que c'est un discours qui s'étend de plus en plus. Moi, c'est ça qui m'effraie. Si c'était que les discours intelligents qui traversaient l'histoire des peuples, on pourrait se contenter de les étudier tranquillement dans nos cabinets en lisant en paix. Le problème, c'est que les discours les plus aberrants peuvent quelquefois gagner en écho dans une société. On est quand même dans une société qui considère aujourd'hui que la différence sexuée dans l'humanité est une construction transphobe. T'sais, on est rendu là. Il y a des idées qui, il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, mais il y a même 2-3 ans, pouvaient nous sembler inconcevables, qui passent aujourd'hui pour la nouvelle norme dans nos sociétés.
C'est
intéressant quand même ça. Donc là, devant cela, je crois que nous devons nous faire un devoir, même quand c'est pénible, parce que je ne dirais pas que lire les textes de Mme Marcellin c'est la chose la plus stimulante intellectuellement qu'on a pu faire cette semaine. mais il faut néanmoins le faire pour prendre au sérieux ce discours qui s'exprime de manière décomplexée, qui trouve de l'écho dans les grands médias, qui est favorablement présenté quelquefois par la Radio-Télévision fédérale. Je me souviens que Mme Marcellin avait eu un traitement favorable dans un reportage. Alors, il faut prendre ça au sérieux parce que ce discours trouve néanmoins de l'écho aujourd'hui et puis devient de plus en plus agressif.
Écoute, lorsque ce matin, quand j'ai lu l'endo de ma boîte de céréales, c'était plus intellectuellement stimulant que le texte de Anastasia Marcellin. Merci beaucoup. Excellent week-end, Mathieu Bock-Côté.
Bonne journée. Bye-bye.